Campus Radio, en coproduction avec El Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Épisode 28, Appropriationnisme, partie 1, Hélène Sturtevant. Les mauvais artistes imitent, les grands artistes volent, disait Picasso. Pourquoi ? Selon ce qu'elle-même affirmait en 2010, l'artiste Hélène Sturtevant n'a jamais été traînée devant les tribunaux. Pourtant, de façon sérielle, elle a répété le travail d'autres en faisant des tableaux et sculptures semblables comme deux gouttes d'eau deleuzienne aux créations d'autres artistes. Pourtant, dès qu'on retrouve ne serait-ce qu'une légère similitude formelle entre deux œuvres, on crie au plagiat, à la contrefaçon, voire au vol. Pourtant, pour des similitudes moins frappantes, des artistes tels que Jeff Koons, Bettina Reims, Luc Tuymans et tant d'autres ont été condamnés pour contrefaçon par des tribunaux. Le 10 mai 2023, Marc-Olivier Deblanc offrait à notre micro une leçon sur l'appropriationnisme. Maître Deblanc, qui nous a déjà accompagnés dans les épisodes concernant le conflit entre Catalane et Druet, est avocat spécialiste en propriété intellectuelle, fondateur du cabinet Barnett, et l'appropriationnisme est un mouvement qui l'interpelle particulièrement. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Un an après, nous espérons avoir suffisamment digéré les idées que Maître Deblanc nous a versées pour traiter une thématique clé dans les questionnements propres à l'art des 20e et 21e siècles. Mais le mot « appropriation » est multiple, polysémique, marécageux. Entre appropriationnisme et appropriation culturelle, il y a un champ sémantique très divers, avec des contenus conceptuels variés. Commençons donc par clarifier les utilisations du terme dans le champ artistique et le champ juridique.
La notion d'appropriation est une notion qui n'est pas définie en soi, mais qui en droit civil, et plus particulièrement en droit des biens, permet de définir ce qu'est un bien. Le droit civil, depuis le droit romain, définit le bien comme une chose tangible, susceptible d'appropriation. C'est-à-dire que dans les objets de droit, on définit une catégorie d'objets de droit, qu'on appelle le bien, et ce bien est susceptible d'appropriation. Alors, l'appropriation, au sens étymologique du terme, c'est faire sien, faire propre. C'est-à-dire s'attribuer quelque chose qui, a priori, ne nous appartient pas ou n'appartient à personne ou dont on ne définit pas un droit fixe. Ce qui va qualifier le bien, c'est son caractère tangible, c'est-à-dire son caractère physique, et si je résume, que je puisse le tenir entre les mains, d'être susceptible d'être approprié. Donc, on voit que le droit civil structure une notion fondamentale qui est le bien autour de la notion d'appropriation.
En ce qui concerne l'art, nous allons nous concentrer sur l'utilisation du terme « appropriation » dans le contexte du mouvement dénommé « appropriationnisme ».
L'appropriation en art est l'utilisation d'objets ou d'images préexistants avec peu ou pas de transformation. Dans le sens le plus étroit, on parle d'appropriation si des artistes copient consciemment et avec une réflexion stratégique les travaux d'autres artistes. Dans ce cas, l'acte de copier et son résultat doivent être compris également comme de l'art. Sinon, on parle de plagiat ou de faux. Au sens large, peut-être de l'appropriation artistique, tout art qui réemploie du matériel esthétique. Il peut s'agir de copies exactes et fidèles jusque dans le détail, mais des manipulations sont aussi souvent entreprises sur la taille, la couleur, le matériel et le média de l'original. Wikipédia, 20 avril 2024, par 11 Labs.
Telle que nous l'avons vue dans plusieurs de nos précédents épisodes, la branche juridique qui s'occupe des questions artistiques est le droit de la propriété intellectuelle. Et l'immatérialité est une caractéristique prédominante et généralisée. La notion d'appropriation utilisée par le Code civil et qui nous a été présentée par Maître Deblanc se heurte donc à un problème.
Alors tout de suite, il faut soulever ce premier paradoxe, c'est que le droit civil va nous expliquer que le bien est défini par sa corporalité, par sa capacité d'appropriation, mais on vient nous dire qu'il y a une autre catégorie de biens qui sont des biens incorporels et qui sont des biens qui sont précisément insusceptibles d'appropriation physique tangible qu'on ne peut pas tenir entre les mains.
Cette scission conceptuelle a des implications juridiques, puisque le fait de se saisir de la physicalité d'une œuvre n'implique pas l'appropriation de ses éléments immatériels.
Alors, il faut faire un effort intellectuel. Si demain j'achète un tableau de Picasso chez Christie's, je n'en suis pas pour autant propriétaire des droits de propriété intellectuelle, cette fameuse couche invisible qui recouvre l'œuvre, et je n'ai même pas le droit, quand bien même j'aurais acheté ce tableau de Picasso 50 millions chez Christie's, de faire un t-shirt avec la reproduction de l'œuvre. Eh bien ça, c'est un peu ce mystère et ce paradoxe qui fait qu'il y a un décrochage où le droit civil définit la physicalité et définit le bien par rapport à sa capacité d'appropriation, et de l'autre côté, on a des biens incorporels où il y a un décrochage et une dissociation entre l'appropriation physique et les droits de propriété intellectuelle. Qui veut dire que le Code de la propriété intellectuelle et la loi de 1957, et c'est un principe qui vaut dans le monde entier, dit en substance que la propriété matérielle de la chose, quand on parle d'une création de l'esprit, c'est-à-dire d'une œuvre, est distincte de la cession des droits.
Hélène Sturtevant ne s'est pas saisie, comme par exemple Maurizio Cattelan l'a fait, de la propriété matérielle de l'œuvre. S'est-elle saisie d'une œuvre de l'esprit ?
La différence entre le droit des biens qui définit le bien comme ce qui est susceptible d'appropriation, c'est un bien meuble corporel. Une œuvre, un tableau et une sculpture sont des biens meubles corporels, qui par exemple sont traités comme tels dans le cadre d'une succession. Et ce décrochage avec les biens incorporels et notamment les droits incorporels, qui sont les droits d'auteur, qui sont quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Alors justement, il y a une matière spécifique qui est venue se saisir, mais là au sens théorique et juridique du terme de la question, qui est la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'était de se dire qu'on a une catégorie d'objets particuliers, et cette catégorie d'objets particuliers, c'est ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Et ces œuvres de l'esprit, elles ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont appropriables au sens du droit des biens, c'est-à-dire qu'on peut les saisir physiquement dans leur tangibilité, mais qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est dans le système français, dans le système européen, pour simplifier, le droit d'auteur, et dans le système anglo-saxon, le copyright.
Est-ce que c'est cet insaisissable dont Sturtevant a réussi à se saisir ? Est-ce cela qui la rend, à son tour, insaisissable par la justice ? Regardons d'un peu plus près qui est cet artiste pour essayer de déceler ce mystérieux crime parfait.
The object is transposed by this repetition and then pushes a reversal of thinking. The object is transposed by this repetition and then
repetition is interior
thinking.
Movement.
The object is transposed by this repetition and then pushes a reversal of thinking.
Né le 23 août 1933 aux États-Unis, Sturtevant brille en 1965 sur la scène artistique new-yorkaise après avoir entamé, là selon ses termes, répétition d'œuvres d'artistes tels que Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg ou Andy Warhol.
Donc Sturtevant revendique la copie légale. Et là, d'un point de vue purement conceptuel, son travail est assez génial. Elle ne va pas réinterpréter, elle va reprendre à l'identique et à l'échelle le travail, comme vous le savez, notamment d'Andy Warhol, le travail de Oldenburg, le travail de Félix González Torres, etc., etc. Pour créer cette confusion et ce sort de vertige en disant « mais quel est cet objet qu'on nous présente ? Quelle est cette chose ? Quelle est cette œuvre ?» Cette œuvre, je la connais, c'est une œuvre d'Andy Warhol. Pourtant, je rentre dans une exposition de Helen Sturtevant. Pareil pour Richard Petitbon, mais je connais cette œuvre, c'est une œuvre de Frank Stella, c'est une œuvre de Roy Lichtenstein, mais pourtant elle est en petit format. Et donc, elle interroge sur les grands paradigmes de l'histoire de l'art. Elle interroge d'abord sur une sorte d'épuisement de l'acte créatif. Une fois qu'on a créé ce truc un peu génial que pouvait créer Warhol ou que pouvait créer Frank Stella, il y a une sorte d'épuisement de l'acte créatif par sa capacité à être reproduite. Il y a une réflexion sur la reproduction au sens de Walter Benjamin, où Walter Benjamin a théorisé cette notion d'aura.
Maître Deblanc nous parle de copie légale. Sturtevant utilisait le terme répétition. Répétition. Répétition et non copie. Y a-t-il une différence entre répétition et copie ? Déjà, contextuellement, oui. Sturtevant cherchait donc à créer une distinction entre son acte et celui plus récurrent réalisé par ceux que l'on peut dénommer, en France, des copistes. Elle a d'ailleurs utilisé d'autres termes pour qualifier son travail. Par exemple, elle parlait de réplique, un terme proche du monde cyber, univers auquel elle s'intéressait. Quelles sont donc les particularités de ce geste-là dans l'œuvre de Sturtevant ?
Helen Sturtevant, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle va dire « je réinterprète pas, je reproduis exactement à l'identique une œuvre de Andy Warhol. » Prenons Andy Warhol. Et là où elle vient redistribuer les cartes, si je puis dire, c'est qu'elle vient dire « mais cette œuvre, c'est une œuvre qui ne pose pas la question de l'intérêt artistique de Warhol, ce n'est pas son sujet, mais qui pose la question de dire est-ce que cette aura, elle existe, puisque on peut être dans le champ de la reproductibilité. Est-ce que vous avez en face de vous, c'est une œuvre d'Andy Warhol, et en même temps, c'est une œuvre de Sturtevant. Je me suis contenté de la recopier. Mais, à la fois en même temps, et ce n'est qu'une œuvre de Sturtevant. Et le pire, c'est que c'est une œuvre originale de Sturtevant. Et que quand j'achète une œuvre de Sturtevant, j'ai un certificat qui me dit que devant moi, j'ai une œuvre d'Andy Warhol, devant moi, j'ai une œuvre d'Oldenburg, devant moi, j'ai une œuvre de Félix González Torres, et pourtant, j'ai une œuvre de Sturtevant. Et il y avait une confusion où moi-même, j'ai été pris par le jeu à la pointe de la douane il y a 3-4 ans, où j'ai pris une photo et de ce que je pensais être une œuvre de Félix González Torres, les fameuses Undefined Object, ces ampoules qui pendent et qui sont mises de façon aléatoire dans un espace muséal. Et là, je m'aperçois en regardant Cartel que c'est une œuvre de Sturtevant. Donc c'est ce moment-là qu'étudie Sturtevant et qu'étudie les appropriationnistes. C'est cette confusion et cette remise en perspective et cette mise en abîme de tous les préconçus, de tout le conditionnement, de tous les dispositifs et de toutes les structures qui sont mises en place dans l'accès à l'œuvre d'art. Et le coup de génie et ce qui nous fait revenir à notre thématique principale, c'est qu'elle pose l'enjeu aussi du droit d'auteur et du copyright. Pourquoi ? Parce qu'au niveau 1 de lecture, elle signe une œuvre d'Andy Warhol sous son nom. Et oui, ça pose la question du droit d'auteur. C'est-à-dire que l'acte fondateur des actes des artistes appropriationnistes, c'est de dire que, entendez bien le raisonnement, c'est assez, d'un point de vue technique juridique, très intéressant. le droit d'auteur, je mettrai le copyright à part, se définit non pas, et le code de la propriété intellectuelle ne définit pas l'œuvre, il ne définit pas le droit d'auteur, il définit l'accès d'un apport créatif au statut d'œuvre par rapport à son originalité. Et l'originalité, c'est la marque de l'empreinte de l'artiste, de l'auteur et du créateur.
Une petite précision s'impose avant de permettre à Maître de Blanc de dérouler son raisonnement. Stuart Event ne fait pas partie du mouvement appropriationniste. Elle a toujours refusé d'être considérée comme y appartenant. En revanche, elle a accepté d'être considérée précurseur de celui-ci. Revenons donc au raisonnement de Maître de Blanc, qui fait la transition entre Stuart Event et le mouvement appropriationniste. Il nous disait donc que le seul critère de différenciation établi par le droit d'auteur est l'originalité.
Donc c'est la marque de la personne elle-même qui fait qu'un Picasso est un Picasso, ce qui fait qu'un Matisse est un Matisse, qui fait qu'un Damien Hirst est un Damien Hirst, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui fait ça? Ben ça, c'est les juges qui tranchent sur cette notion d'originalité. Et les appropriationnistes, dans l'histoire de l'art, et dans ce mouvement encore une fois très réduit, viennent dire, mais si je peux reproduire l'œuvre, l'élément fondateur de la construction du droit d'auteur, qui est l'originalité, se dilue et se néantise dans la capacité que j'ai de reproduire et de revendiquer l'acte de reproduction comme un acte conceptuel pur. Et donc, je crée des œuvres qui détruisent dans sa structure même le concept, les paradigmes, non pas de l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire de l'art, et de toute la question de l'originalité, mais au sens de l'unicité de l'œuvre, qui est un autre sujet, mais du droit d'auteur. Est-ce que le droit d'auteur se fixe sur l'œuvre? Et là, l'art conceptuel apporte la réponse. Parce que quand j'achète une œuvre d'Hélène Tiertevant, j'achète une œuvre qui est une reproduction d'une œuvre préexistante, donc qui est une contrefaçon, si je vais au bout d'un raisonnement. C'est une contrefaçon légale parce qu'elle est assumée, et parce que, coup de génie des artistes appropriationnistes, ils créent eux-mêmes la sphère de l'égalité de leur acte artistique par leur protocole, en revendiquant, et en, non plus en assumant, mais en revendiquant l'acte délibéré de reproduction légalisé ou assumé ou revendiqué de leurs œuvres. Et ce qu'on achète, comme on le sait, dans l'art conceptuel, enfin, même si les œuvres de Richard Pettibone ne sont pas purement, et les œuvres de Richard Prince ne sont pas purement des œuvres d'art conceptuel, mais on achète des artistes appropriationnistes, c'est-à-dire soit un protocole qui dit que, effectivement, j'ai reproduit une œuvre d'Andy Warhol, je dis que c'est une œuvre d'Andy Warhol, etc. Je crée mon champ de légalité dans le cadre d'un contrat tacite et même expressis verbis entre l'acheteur qui achète une œuvre d'art. Il est évident que quand j'achète une œuvre, une reproduction de Frank Stella par Richard Pettibone, bon, déjà par la taille, je me doute que c'est pas Frank Stella, puisque Richard Pettibone réduisait ses œuvres, mais j'ai conscientisé le fait que j'achetais une œuvre appropriationniste.
Stuart Event, qui n'est donc pas une artiste appropriationniste, a été pionnière dans ce geste qui sera un geste fondateur du dit mouvement. Pour finir de construire les éléments qui définissent une réponse à notre question sur l'impunité de Stuart Event, regardons ce qui la différencie d'autres artistes qui ont été, eux, condamnés.
Alors, le problème qui se pose ensuite, c'est comme je l'ai dit, c'est quand on vient brandir le drapeau de l'appropriationnisme comme un dispositif d'une stratégie judiciaire. Où on a eu le cas notamment dans le dossier qui opposait Jeff Koons au créateur des publicités NAF-NAF, où il y avait des publicités NAF-NAF qui avaient une force créative importante, et Jeff Koons en a fait des sculptures. Je simplifie à l'extrême. Et au moment où on est allé dire à Jeff Koons, mais attendez, c'est de la contrefaçon, il a dit, ah, mais n'oubliez pas, je suis un artiste appropriationniste. Bon, Alors, il y a aussi, dans l'histoire de l'art, un peu une confusion. C'est-à-dire que on peut soit mettre l'appropriationniste, c'est intéressant parce qu'il est à cheval entre l'art conceptuel et le pop art. Parce que le pop art, c'est la culture de l'appropriation. C'est s'approprier les éléments de la culture populaire, les icônes de la culture populaire, chez Warhol, James Dean, Marilyn Monroe, les objets de consommation, soupe Campbell, les bouteilles de coca, etc. C'est de l'appropriationnisme, puisqu'on réutilise quelque chose qui existe. Mais ce n'est pas l'appropriation d'œuvres d'art ou d'objets sur lesquels se fixe un acte créatif, c'est l'appropriation de codes culturels, et ça s'inscrit dans toute une réflexion dont je vous passe les détails, du pop art. Mais là, c'est dans l'appropriationnisme, c'est l'art qui s'approprie l'art lui-même. Donc c'est un appropriationnisme particulier. Donc on se situe à la frontière du pop art et à la frontière de l'art conceptuel. Ce que je veux dire, c'est que quand Jeff Koons vient dire « Ah, j'oubliais de vous dire, je suis appropriationniste », il s'inscrit dans un courant pop art en disant « Ben moi, je prends tout ce qui passe ». Et une publicité dans le pop art, ça fait partie de mon matériel, ça fait partie de mes matériaux, ça fait partie du substrat que j'utilise pour mon expression artistique, comme Warhol le faisait avec les bouteilles de Coca-Cola, ou les soupes Campbell qui sont toutes identiques et toutes différentes, etc. Mais on voit bien que derrière, il y a un exercice de mauvaise foi, c'est qu'en réalité, c'était de la contrefaçon ou c'était du parasitisme. Et on a ça dans l'affaire Zadig et Voltaire, et l'affaire Julianne Charrière. C'est-à-dire que, oui, j'oubliais de vous dire, une volonté, si ce n'est pas un hommage revendiqué, j'oubliais de vous dire, je suis un appropriationniste, etc. etc. Donc, parfois, c'est un artifice judiciaire de dire, oui, je suis un artiste appropriationniste, alors qu'en réalité, je ne fais pas partie de ce courant-là. Bon, il y a eu des affaires Richard Prince, qui sont des affaires assez connues, où lui, on connaît le fameux cow-boy Marlboro, où Richard Prince s'est contenté de reprendre les publicités Marlboro, il les a agrandies, il a repris les photos qui étaient dans les journaux, dans Newsweek ou un autre quotidien ou magazine américain, et il en a fait une œuvre d'art. Bon, mais ça, c'est un geste conceptuel qui n'est pas discutable, et de reprendre, et ça s'inscrit dans le pop art. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que l'appropriationnisme comme revendication d'un mouvement artistique assumé comme une démarche conceptuelle ne pose évidemment pas de difficulté parce que, encore une fois, elle se fait avec l'imprimatur des artistes cette démarche qui est quand même vertigineuse de dire que je propose, c'est de copier les œuvres préexistantes d'autres artistes. C'est quelque chose qui intellectuellement intéresse les artistes dès lors qu'il n'y a pas de confusion. Dès lors qu'il n'y a pas d'intentionnalité, dès lors qu'il n'y a pas de mauvaise foi, et là on voit toutes les notions de droit civil, de la faute, de la responsabilité et de l'élément méral en droit pénal. Donc quand ça s'inscrit dans cet objectif, dans cette perspective artistique de recherche théorique sur l'histoire de l'art, de Walter Benjamin à l'appropriation, hommage, référence, etc., etc., c'est parfait. Mais là, quand on s'inscrit en rupture et que ça devient un argument de défense judiciaire, là, la question, elle est beaucoup plus tendue et elle est moins honnête, si je puis dire.
Hello papi, mais qu'est-ce que ça ? J'entends des bails à 300 morts. À ce qu'il paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen.
L'histoire de l'art est remplie d'artistes qui copient, ou disons, répliquent, pour utiliser un terme cher à Stuart Vant. On peut l'oublier, mais le droit est une affaire de justice. La justice comme absolu objectif paraît insaisissable et objet de discussions philosophiques infinies. En revanche, la justice comme expérience paraît une vérité anthropologique plus élargie. Ce qui est juste ou ne l'est pas se construit dans l'intériorité de l'individu. Ce qui est juste ou non ne peut donc pas être fixé de façon objective et inamovible, mais comme Maître de Blanc nous l'a montré, la distinction entre une œuvre appropriationniste et une contrefaçon est déterminée par l'intention de l'auteur et sa matérialisation comme expérience dans la vie sociale. Il nous a aussi dit que c'est au juge de séparer le bon grain de l'ivraie et de définir in concreto ce qui relève de l'appropriationnisme et de ce qui est contrefaçon. Nous venons de parler de contrefaçon et nous n'avons pas explicité ce concept juridique. C'est un concept central dans la thématique de l'art au parloir et encore plus dans la thématique de l'appropriationnisme. La contrefaçon semble le revers de la monnaie d'un acte appropriationniste. La contrefaçon sera donc l'objet juridique central de notre prochain épisode, le deuxième sur cette thématique. Dans le troisième et dernier épisode sur le sujet, nous vous présenterons un numéro spécial d'une durée d'une heure avec la totalité des propos déroulés par Maître Deblanc. Oh, ja, ja.